Bon, alors on va écouter tout de suite Philippe Madet avant de revenir à la discussion, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on pourra discuter, évidemment. Hein. Philippe.
Donc j'avais choisi pour titre variante de l'analyse en type. Dans les écrits, Lacan a cette formule. Ils ne s'entendent pas entre eux sur le sens d'un seul des termes qu'ils appliquent religieusement. C'est une citation qui est un peu dure à l'endroit des analystes, mais qui rappelle combien il y a des évidences qui n'en sont pas, ou bien si évidence il y a, elles ne sont peut-être pas les mêmes pour chacun. Analysant n'est pas un signifiant qui vient naturellement, pas d'évidence donc, et d'ailleurs il n'était pas là dans les premières décennies de la psychanalyse, pas d'évidence, y compris pour Freud. Si le signifiant est là depuis Lacan, l'analysant, il me semble, mais on peut en discuter, se nomme pourtant et encore rarement comme tel, alors qu'il est particulièrement concerné. Ce qui se dit plutôt, c'est « je fais une analyse, je suis en analyse, je vois un analyste », formule paradoxale, puisque l'analyse se soustrait précisément au regard, ou encore « je suis suivi par un analyste », ce qui en dit déjà long, l'idée qu'un sujet peut se faire de l'analyse et des places respectives de l'analyste et de l'analysant. Outre qu'il ne s'approprie pas le terme, l'analysant s'interroge souvent de savoir s'il est bien analyse, donc s'il est bien analysant. Une question névrotique probablement, mais son caractère structural ne l'annule pas. Et donc mon hypothèse est juste, soit que les analysants, en proie à de multiples paradoxes, ne s'approprient pas le signifiant qui les désigne, est-ce le fait d'une résistance ? Est-ce le fait de variantes du sujet en analyse ? Et que faudrait-il pour qu'il se le nomme comme tel ? Et d'ailleurs, le faut-il ? Si la question de ce qu'est un analysant m'avait été posée pendant le temps de ma cure, je crois bien que je n'aurais pas su répondre en fait. En tout cas, pas d'une manière suffisamment claire pour un interlocuteur non analysant. Quant à un analysant, j'aurais supposé qu'il en avait une idée, semblable à la mienne, que pourtant je n'avais pas. Peut-être aurais-je répondu quelque chose du genre, c'est parler à quelqu'un qui ne fait partie d'aucun de mes cercles, à quelqu'un de bien, j'en étais sûr, qui allait m'aider à y voir plus clair, me transférer un savoir. Donc, dans un premier temps, je crois que j'aurais parlé de l'analyste, pour mettre le transfert et l'action de son côté, soit exactement le contraire de ce qui m'attendait. Lacan le dit un peu différemment, il le dit de cette manière, le sujet vient à l'analyse pour savoir ce qu'il demande, ce qui le mène très précisément à cette voie de demander que l'autre lui demande quelque chose. Analysant est bien un terme qui indique le travail du côté du sujet en analyse, ce qui est vrai mais ne va pas de soi. Être en analyse, c'est une expression qui est plus rassurante parce qu'elle inclut l'analyste. C'est cela qui va de soi pour l'analysant qui s'adresse à l'analyste. Il veut être entendu parce qu'il ne l'est pas. Il veut le mettre au travail, lui, l'analyste. Être suivi par un analyste démontre combien le sujet qui vient d'analyse ne veut pas être seul, y compris hors le temps des séances. Tout aussi étonnant que la difficulté devant laquelle j'aurais été de répondre à notre question, à bien y repenser, je crois qu'en fait elle ne m'a jamais été posée. Je suis interrogé sur l'analyse, mais les questions ne portent pas tellement sur l'analysant, elles portent beaucoup plus sur l'analyste. À tel point que j'ai été surpris et pris de court quand une personne d'une autre culture, très peu informée de la psychanalyse, m'a récemment posé cette question : pourquoi as-tu fait une analyse ? Alors là, pour le coup, j'avais une réponse, je m'en souvenais parfaitement, mais je ne m'attendais plus à ce que cette question me soit posée directement, tant c'est sur l'analyste qu'il y a interrogation dans le discours commun. Comment le choisir ? Comment est-on sûr que c'est un bon analyste ? L'analysant, qui est pourtant celui qui fait aussi que le discours analytique existe, est oublié. Il n'a rien d'égalmatique. Alors que c'est l'analyste qui doit être en position d'objet, le discours commun place l'analysant comme objet du dispositif analytique. Ce qui est du pain béni pour la critique, qui peut présenter le transfert comme un pouvoir de l'analyste, avoir une jouissance, et une soumission stupide de l'analysant. Que l'analysant ne se nomme pas comme tel, n'est donc pas si étonnant quand le terme lui-même engage déjà une subversion. Ce qui s'engage dans l'analyse n'est pas ce qui était prévu par l'analysant. Et une subversion avant même que la cure commence et qui met le sujet dans une situation paradoxale. Alors les paradoxes, l'analysant les cumule de manière variable. Il vient pour parler, va parfois répéter qu'il n'a rien à dire. Il parle alors que ce qu'il dit l'intéresse souvent peu. Il vient par peur qu'il lui arrive quelque chose et précisément, il va lui arriver quelque chose. Il voudrait que cesse la répétition qu'il lui faudra pourtant affronter. Il vient par amour de quelqu'un dont il devra se séparer. On pourrait dire qu'il cherche un bon entendeur à qui il faudra dire salut. Il est mobilisé parce qu'il immobilise. Il va voir quelqu'un qui se soustrait à son regard. Il veut être libre, il se fait aliéner. Il veut être aux commandes, il s'expose à l'inconscient et aux effets du langage. Il veut se libérer d'une tutelle, c'est le croyant par excellence. L'analyste est son dieu, il est rivé à la magie du sujet supposé savoir. Lacan parle de pensée magique et de foi naïve. Il s'adresse à quelqu'un qu'il suppose savoir et qui pourtant doit ignorer ce qu'il sait. Et la liste pourrait s'allonger. Autrement dit, le point de départ est un malentendu, pour ne pas dire une contradiction, mais c'est un point de départ nécessaire. Le sujet qui vient en analyse attend que l'analysant se soit l'analyste. Viendrait-il s'il le pensait autrement, s'il ne se trompait pas? C'est une tautologie, évidemment, de le dire ainsi, mais avant d'être analysant, un sujet ne l'est pas. Mais c'est précisément parce qu'il ne l'est pas qu'il peut le devenir. C'est une condition nécessaire. Sans que le désir que ce soit l'analyste qui travaille, et non pas lui, le sujet ne viendrait pas sonner à sa porte. Celui qui pense être analysant, avant d'aller voir un analyste, pouvoir s'auto-analyser ne va justement pas voir un analyste. Conséquence, les entretiens préliminaires sont de ce fait incontournables, il est même impossible d'être analysant à la première séance. Analysant, on ne peut que le devenir. Outre la réponse que j'aurais pu tenter d'apporter personnellement à ce qui fait notre question, je suis allé voir sur le net, en inscrivant sur mon moteur de recherche « Qu'est-ce qu'un analysant ?» On ne sait jamais, j'aurais peut-être pu trouver 5 pages toutes prêtes pour ce soir. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas tant de choses que ça. J'ai trouvé un forum de discussion duquel j'ai retenu 2 réponses. La première vient d'une femme qui s'interroge ainsi. Je serais peut-être une autre analysante avec un autre psy. Nous savons qu'il n'est pas possible de dissocier l'analysant de l'analyste, c'est le principe même du discours analytique, et c'est ce qu'a très bien compris cette femme, mais la question qui est posée est, y a-t-il des variantes de l'analysant selon que l'analyste varie? Si, comme il a été dit la dernière fois, un sujet peut être analysant, parce que c'est lui qui travaille et qu'il peut être un travailleur tout aussi bien avec un analyste de l'IPA qu'avec un lacanien, la réponse est donc non. Pas de variante de l'analysant selon que l'analyste varie. Non seulement selon sa personne, mais y compris selon son école. On l'a dit également, l'analyste n'est pas le produit de l'analyste. L'analysant n'est pas le produit de l'analyste. Mais alors, pourquoi une orientation de l'analyste plutôt qu'une autre ? Je propose cette réponse. Être analysant, c'est une chose. Avoir terminé une cure en est une autre. C'est là que se situe la variante. Toutefois, non pas selon l'analyste, mais selon son orientation. L'analysé, celui qui a terminé sa cure, est séparé de l'analyste, mais ne l'est pas selon ce dernier, sinon il y aurait identification à l'analyste. L'analysé, qui est délié de celui qui fut son analyste, est orphelin, comme on a pu le dire dans une séance précédente. L'analysant ne varie pas, mais l'analysé, oui, selon l'analyse, ce qui suppose, mais c'est une autre question, que l'analysé d'aujourd'hui serait peut-être différent de celui d'hier. Pour l'analysant, y a-t-il des variants qui colleraient aux variations du mouvement psychanalytique, y compris dans le cercle lacanien? Les sujets, au fond, n'ont pas tellement changé, alors que c'est le cas de la technique psychanalytique. Les analyses sont longues, les séances sont courtes, la cure est orientée par le réel, donc rien à voir avec l'époque de Freud. La tâche analysante a-t-elle changé pour autant? Il me semble que non. L'analysant est au travail, en suivant le principe de l'association libre, principe qui, lui, n'a pas bougé. Il produit du savoir. Ce qui a changé, c'est l'acte de l'analyste. On pourrait dire que l'analysant ne connaît pas le temps, alors qu'il en fait durement les preuves avant de devenir analysé. Éventuellement analyste, dans le sens analyse de l'école. Remarquons que le terme « analysant » amené par Lacan supplante celui d'analyser, mais ne le supprime pas. Ce qu'est un analysant a pour conséquence de redéfinir ce qu'est un analysé, à différencier de l'analyste donc. La fin de l'occure produit l'analysé, mais pas forcément l'analyse de l'école. Et on voit comment l'avancée de Lacan, en amenant le seul terme « analysant », a un effet qui fait bouger la façon de penser l'ensemble de la psychanalyse. La deuxième réponse que j'ai retenue de mon petit détour par le net, je l'ai d'abord trouvée très drôle, mais elle dit en fait quelque chose qui nous intéresse et qui m'incite à remettre en jeu un débat qu'on avait commencé lors de la séance de décembre sur la croyance à l'inconscient et sur la croyance d'une manière plus générale. Cette réponse, c'est « Un analysant, c'est quelqu'un qui fait vœu de pauvreté pour un moment. » Je trouve que c'était pas mal. Au-delà de la blague, le parallèle avec la religion est évident. Je ne pense pas que l'on puisse parler, évidemment, d'un vœu de pauvreté au sens d'une promesse solennelle adressée à d'autres qui serait de plus liée à un désir de partage. Être analysant n'implique pas de porter sandales et robes de bure. Mais pour accepter ce qui est bien quand même une conséquence de l'analyse, soit une certaine pauvreté, qui plus est à une époque où les offres de consommation se font sans cesse plus nombreuses, il y faut bien un peu de foi. Car c'est effectivement pour un moment. Pour aller vers cet inconfort et d'autres liés à la cure, on peut faire l'hypothèse qu'une croyance singulière s'impose. La croyance, on le sait, c'est une réponse, une solution face au réel vécu, mais inconnu, à l'incomplétude de l'autre. C'est une adresse à un autre supposé donner une réponse. Ce fut toujours le cas, que ce soit avec les mythes, les religions, la science. Pourrait-on dire qu'avec la psychanalyse est apparue une forme de croyance, tout au moins une offre de croyance inexistante auparavant? On l'a dit plusieurs fois, l'analysant est un croyant, à quoi croit-il? En la parole, probablement, sinon le questionnement n'est pas possible, en la parole comme supposé pouvoir dire une vérité. Il croit donc en la vérité, laquelle mobilise la croyance. Il croit que ce qui le fait souffrir est déchiffrable, que le symbolique va opérer sur le réel. Il croit en Dieu, tout simplement. Le sujet supposé savoir, c'est Dieu, un point c'est tout, dit Lacan. Il croit qu'il va, selon sa foi, donc que l'analyste va lui apporter la bonne parole, le délivrer de ses questions et inhibitions, mais peut-être aussi de ses péchés. Du sujet supposé savoir, l'analysant attend ou craint un dict véritable, un verdict. Pour Freud, la croyance de l'analysant concernait l'analyste. Il l'écrivait ainsi, le névrosé se met au travail parce qu'il accorde croyance à l'analyste. Lacan apporte une distinction dans le séminaire 15. Je le cite, je dirais même plus que du fait qu'il entre en analyse, il fait référence à un sujet supposé savoir mieux que les autres. Cela ne veut pas dire d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, qu'il l'identifie à son analyste. Cela dit, le sujet supposé savoir n'est pas une particularité du discours analytique. Et d'autres que les analystes peuvent occuper cette place. Classiquement un maître, un professeur, mais aussi une personnalité médiatique, par exemple. Croire en un sujet supposé savoir n'est donc pas suffisant pour faire un analysant, soit un travailleur. Il y faut un sujet supposé savoir sûrement comme les autres. L'analyste se recrute dans le commun des hommes, mais pas comme tout le monde, dit Lacan. Soit un sujet supposé savoir qui donne à la parole une autre portée, qui interroge l'inconscient, qui n'est pas lui-même au travail dans le temps de la séance et dont la destinée est de choir. C'est donc quand même une croyance singulière, qui n'est portée finalement que dans le discours analytique et qui implique la croyance en l'inconscient. Si le concept de l'inconscient est admis, dans le sens où il fait partie du discours commun, on ne peut pas dire que beaucoup s'y réfèrent. Nous l'avons dit, cette croyance à l'inconscient est requise pour passer du patient en attente d'une vérité à l'analysant travailleur. Mais la frontière n'est peut-être pas étanche. D'abord, la croyance en une vérité ne tombe pas avec l'apparition de la croyance en l'inconscient. Et la croyance en l'inconscient n'implique pas de le croire quand il se manifeste, car ce qui se dit, dans un lapsus par exemple, peut être incroyable dans le sens d'inentendable. Il y a aussi, je crois, une spécificité de l'analysant croyant, c'est de n'être pas content. L'analysant n'est pas un croyant béat, sinon, comment et pourquoi travaillerait-il ? Pour reprendre cette formule de Pessoa, être homme, c'est ne pas se contenter. Je dirais que être analysant suppose de ne pas se contenter. Une formule que l'on peut appliquer à l'analyste d'ailleurs, qui, s'il n'est pas un travailleur dans le temps des séances, l'est dans l'école. Pourquoi travaillerait-on si ce n'est parce qu'on n'est pas content ? N'être pas content pourra amener l'analysant à l'incroyable, mais cette fois dans le sens d'extraordinaire, de ne pas en croire ses oreilles. Il pourra, de croyant, passer à se faire la dupe, ce qui situe un tournant. Il pourra arriver à la satisfaction, qui est à différencier du contentement. Cette expression « se faire la dupe », qui reprise une formule connue et qui est à la fois une invention de Lacan, permet de s'écarter du signifiant croyance dont les équivoques peuvent signifier des contraires, puisque croire est associé à la certitude, mais dire « je crois », c'est aussi dire « je ne suis pas sûr ». Elle indique également une différence avec la croyance. Je dirais que croire relève de la supposition, se faire la dupe de l'objectivation, soit le résultat d'une expérience, plus encore qu'une conviction, soit savoir y faire avec. De croyant, pour rester dans la métaphore religieuse, on pourrait dire que l'analysant devient pratiquant quand il se fait la dupe. Il devient un croyant non crédule, puisque la crédulité exclut le doute, lequel reste nécessaire pour être au travail. On ne peut croire que ce dont on n'est pas sûr. La croyance perdure et varie donc selon le cours de l'analyse. Quand l'analysant commence à ne plus croire à une vérité qui lui serait délivrée par l'analyste, ce qui finit quand même par arriver, quand le sujet supposé savoir est au bord de la chute, quelle croyance reste-t-il à l'analysant pour poursuivre sa cure ? Je proposerai la croyance que l'analyste sait y faire avec la fin de la cure. De sujet supposé savoir sur soi, il deviendrait sujet supposé savoir y faire. La croyance reste donc active avec des variantes, non pas de l'analysant, mais de l'avancée de l'analyse. Et je pense qu'elle reste active après la cure. Plus de croyance en un sujet supposé savoir, mais en analyse. Cela dit, il y a peut-être quelque chose d'un peu identique. Le sujet qui a terminé sa cure et choisi de poursuivre son travail dans une école et ou comme analyste, ne fit-il pas de l'analyse un nouveau supposé, savoir supposé à questionner ? Certes, non pas un sujet, mais un supposé savoir de l'inconscient. Sinon, comment pourrait-il prendre une position d'analysant qui n'enseigne pas mais pense la psychanalyse ? Analysant analyse, les frontières ne sont peut-être pas toujours si étanches entre les uns et les autres. D'ailleurs, beaucoup d'analystes sont analysants, encore en cure. C'est une autre variante de l'analyse. On n'est pas forcément soit l'un, soit l'autre, si ce n'est que pour l'analyste, au contraire d'analysant, qui au fond n'a pas forcément à se nommer comme tel, n'est pas le travail qui lui est demandé que de se nommer ainsi. Pour l'analyste encore analysant, il est nécessaire évidemment de distinguer quand il est l'un ou l'autre. Et si le psychanalyste a terminé sa cure, il peut donc être non plus analysant, mais en position d'analysant. Analyse avec fin, analysant sans fin, c'est la formule qui m'est d'abord venue pour resserrer cette idée. Pour l'analyste comme pour l'analysant, le savoir est au cœur de ce qui les anime. Dans l'analyse, on est là pour savoir quelque chose, disait Lacan dans Séminaire 15. Mais ce « dans l'analyse » peut s'entendre de différentes manières, soit pas seulement dans la cure. Le névrosé, du fait de sa division, est naturellement poussé vers les sujets supposés savoir, si bien que l'on pourrait dire que l'analysant qui fait le choix du savoir en s'adressant à un sujet supposé savoir est un névrosé comme les autres. Mais peut-être pas comme tout le monde, pour reprendre la formule de Lacan concernant les analystes. Il va se mettre au travail, passant du désir d'acquisition du savoir à la production, ce que peuvent faire d'autres, bien sûr, qui ne sont pas forcément en analyse, mais dans la création, par exemple, si ce n'est que pour l'artiste, il n'y a pas d'autre qui donne une autre portée à la parole. Pour avoir un tel attrait vers un sujet supposé savoir, un tel attrait vu le coût de l'analyse, le coût non seulement financier, mais toutes les pertes que cela implique, il faut quand même avoir une sérieuse question. Mais l'analyste, je parle de celui qui n'est plus analysant, n'a-t-il plus de questions? Il reste un parlette comme les autres. Et je n'ai pas entendu dans les témoignages d'analystes de l'école que ce qui a fait passage à l'analyste est la fin des questions. La fin de certaines, oui, mais d'autres s'ouvrent. La question du savoir demeure. Bien sûr, il faut différencier désir du et de savoir, mais dans les deux cas, et même s'il ne s'agit pas du même savoir, le signifiant est identique et peut peut-être indiquer quelques connivences. Dans les deux cas, de l'analyste et de l'analysant, il implique le travail et le risque d'aller vers ce qui ne va pas de soi. Savoir est toujours, par quelque côté, croire savoir, disait Lacan. Alors, ce qu'est la position d'analysant pour l'analyste? Elle est parfaitement, en fait, démontrée par Lacan quand, précisément, il propose que le terme analysant supplante celui d'analyser. Lorsqu'il amène ce terme, il produit un savoir sur la psychanalyse. Autrement dit, il travaille. Il est un travailleur, comme on l'a dit, de l'analysant. De celui qui répond et interprète, il passe à celui qui travaille. Et réciproquement, d'après une torsion opérée selon qu'il est dans son cabinet ou dans l'école. Le choix de Lacan de faire séminaire à voix haute en présence d'un auditoire donc confirme, je crois, cette position d'analysant, l'analysant auquel il est demandé de parler et d'être en présence de l'analyste. Au début de la 10e leçon du séminaire 11, Lacan y reprend cette formule, l'art d'écouter équivaut presque à celui de bien dire, et il ajoute: cela répartit nos tâches. Selon comment on entend ce « nous », et je fais l'hypothèse qu'en fait il parle de lui. Cela dit bien la torsion de l'analyste en position d'analysant et d'interprétant. Après coup, la formule que j'ai avancée précédemment, « analyse avec fin, analyse sans fin », ne m'est apparue pas tout à fait juste, puisque être analysant et être en position d'analysant, ça n'est pas pareil. Et pas seulement parce que pour le premier, le travail porte sur son être, et pour le second, sur la psychanalyse. Les termes le disent eux-mêmes. La position pour l'analyste, ce n'est pas la supposition pour l'analysant. Si le savoir est ce qui anime analyste et analysant, il n'est pas supposé pour l'analyste, et a fortiori pas supposé chez un autre. Supposer, c'est se placer sous. On en revient à ce qu'avait évoqué Miyuki Oishi, l'analysant soumis. Être en position d'analysant exclut la supposition. Cela n'implique pas que l'analyste impose, mais qu'il pose. Dans la cure, il pose l'inconscient et doit ignorer ce qu'il sait. Dans l'école, il pose son travail en position d'analysant. On pourrait dire qu'il est en position d'analysant avec ses pieds, pour reprendre une formule de Lacan. Il ne prend pas ses jambes à son cou, ce qui suppose de dire aussi ce qu'il ne sait pas, d'oser quelques inventions. Situation finalement tout aussi difficile que celle de l'analysant. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi finalement Lacan n'avait pas eu l'idée de supplanter le signifiant analyste, qui évoque plutôt une position statique par un autre signifiant. On l'a dit, l'analyste dans le dispositif de la cure n'est pas le travailleur, mais n'en est pas moins acteur. Il répond dans le sens d'être présent avec son désir. Il répond donc souvent en se taisant. Et il interprète. On pourrait parler d'une paire analysant-répondant ou analysant-interprétant. Pour conclure, que l'analysant ne s'approprie pas le signifiant qu'il désigne, souvent et plus généralement en début d'analyse, ce n'est pas si grave, mais cela indique que le terme, bien que vieux de quelques décennies maintenant, n'est pas acquis. Raison de plus, donc, pour continuer de le mettre au travail. Et c'est avec la question de l'invention que j'aimerais poursuivre ce travail dont j'ai vu qu'elle avait fait le thème des Journées nationales de 2002. Lacan a une formule, j'ai pas trop retrouvé la référence, je crois que c'est aux États-Unis qu'il avait dit ça. L'analysant, c'est celui qui invente. Inventer est toutefois insignifiant, qui revient souvent dans ses séminaires, au cours desquels il procède d'ailleurs des inventions, comme les néologismes. Comment entendre ce terme pour l'analysant ? C'est celui qui fabule, qui invente avec le fantasme, ou bien c'est celui qui crée ? Et ça peut être tout ça à la fois. J'ai bien sûr envie de pencher pour la dernière hypothèse, au-delà d'être un travailleur, l'analysant, et peut-être un créateur. À suivre.